le texte s'impose à la conscience, le texte n'est pas un point final, c'est un point de départ. Le texte n'est pas fixiste, n'est pas rigide. Mais le fait de partir du Coran ne signifie pas être fermé à son contexte. Et donc, partir du Coran, oui, mais être rigide, non. Si je suis en Amérique, je vais penser l'islam autrement. Si je suis au Moyen-Âge, je vais l'interpréter autrement. D'ici deux siècles, je vais l'interpréter autrement. Pourquoi je vais figer l'islam concernant les valeurs de la République ?
Repenser l'islam.
France, islam, question croisée. Abdinour Bidar.
Bonjour à tous. Pourquoi la relation entre la société française et ses musulmans est-elle si difficile, si conflictuelle ? Pourquoi a-t-elle dégénéré à ce point que maintenant nous n'avons plus d'autre choix ni urgence que de travailler tous ensemble à une grande réconciliation nationale ? L'une des explications est que la France et l'islam traversent tous les deux une phase de crise profonde de leur modèle. Le modèle social et culturel français est en crise, voire en état de panne complète, et du côté musulman, c'est le modèle culturel et religieux traditionnel qui se trouve de plus en plus contraint d'évoluer et même de se renouveler complètement tant il est inadapté au présent. Or, que font deux modèles en crise lorsqu'ils se font face à face et lorsqu'ils ne veulent pas regarder en face leur propre crise ? Ils se renvoient la balle en accusant l'autre de tous les torts. La France accuse l'islam de ne pas vouloir ni pouvoir s'intégrer. Inversement, l'islam accuse la France de le stigmatiser et de le discriminer. Dieu merci, l'islam de France ne s'installe pas tout entier dans cette position de victime, qui est si à la mode aujourd'hui. Il se prend en main, et les plus audacieux, les plus éclairés des musulmans, et sont nombreux, ont entrepris de renouveler en profondeur leur religion. Dans un texte publié en juin sur le vivre ensemble, et dont j'ai déjà salué ici l'importance, le Conseil français du culte musulman proclamait ainsi que, je cite, « Les musulmans de France désirent se joindre au mouvement de renouveau et de reviviscence de la pensée religieuse de l'islam et, je cite à nouveau, le renouveau, avec une majuscule s'il vous plaît, s'entend comme une action de contextualisation dans le temps et l'espace de la compréhension de la religion et comme l'ajustement de son application dans une société en perpétuel développement et transformation. » Enfin, donc, l'islam sort de sa léthargie, de son sommeil dogmatique, de son immobilisme. Enfin, il comprend qu'il doit entreprendre sa mutation spirituelle vers les siècles à venir. L'un de ceux qui, ici, en France, œuvre le plus à ce renouveau, c'est le recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Obrou. Cet homme remarquable, d'une érudition aussi importante que sa modestie, a émis l'idée très libérale, presque révolutionnaire, que la loi religieuse, la fameuse charia, n'était pas une chose absolue, mais qu'elle pouvait et qu'elle devait s'adapter à la France, c'est-à-dire à la situation de minorité culturelle et sociale des musulmans ici en France. Ce qui est une façon de dire au passage, et c'est très important, que les musulmans doivent connaître et respecter la culture française. Tarek Obrou parle de charia de la minorité, et cela veut dire très concrètement que l'islam doit choisir ici la voie de la discrétion. À propos du voile, par exemple, ce recteur qui ne manque pas d'humour déclarait ainsi au journal Le Monde, c'était en novembre 2009, je le cite, « Si je voulais être provocateur, je pourrais dire aux femmes « Mets ton foulard dans ta poche ». Je vous recommande d'ailleurs la lecture de l'article entier que M. Obrou avait écrit pour Le Monde, sous le titre « Les musulmans doivent adapter leurs pratiques à la société française ». Et je vous laisse imaginer les réactions produites par cette prise de position. Il suffit de voir à ce sujet les commentaires sur le site communautaire ou ma.com pour mesurer l'impact de cette proposition de Tarek Obrou, les débats enflammés qu'elle suscite entre les musulmans. Un internaute n'hésitant pas à traiter notre recteur d'ultra-libéral religieux et de collaborateur. Et c'est pire encore pour le philosophe. Pour moi qui ai pris dans mes livres des positions sur l'islam jugées encore plus nouvelles et encore plus critiques vis-à-vis de la tradition, l'accusation d'islamophobie m'est déjà tombée dessus et comme je suis d'origine musulmane, certains m'ont déjà traité d'hérétique. Ça me chagrine un peu parfois quand j'y pense, mais bon, ça a toujours été le sort des philosophes que d'être condamnés comme des ennemis de la foi, alors qu'ils plaident simplement pour une foi intelligente. Alors j'entends ces accusations et je me dis que c'est comme ça et je continue de travailler. Rien n'arrêtera le travail de la pensée, car ce mouvement de renouveau spirituel va dans le sens de l'histoire. n'en déplaise à tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Qu'un cas, toutes les sociétés humaines sortent aujourd'hui de la religion, même là où ces religions font beaucoup de nouveaux adeptes et beaucoup de bruit. L'islam, ici en France, est en train de retrouver, de redécouvrir pour lui-même ce que le Talmud juif disait déjà en Europe au XIXe siècle. La loi du pays vaut principe de la loi de la Torah. Bonne nouvelle pour l'islam et les musulmans de France. Ils vont avoir l'occasion de faire preuve d'audace, d'inventivité, de créativité spirituelle et sociale. Quoi de plus difficile, cependant, pour une tradition et une culture religieuse qui ont justement fait de l'innovation, bid'a en arabe, le pire des sacrilèges contre l'éternité accordée à la loi religieuse. De quoi, de qui l'islam de France a-t-il le plus besoin dans les années à venir? De conscience libre, d'esprit libre. Et il y en a beaucoup parmi les jeunes générations qui en ont assez que la religion dise toujours la même chose. Le choix qu'auront à faire ces jeunes générations n'est pas entre abandonner l'islam ou conserver l'islam, mais de repenser l'islam au-delà de l'islam, c'est-à-dire de s'aventurer hors du cadre de la religion d'hier pour trouver la vie spirituelle de demain. C'est le grand penseur Mohamed Harkoun qui, le premier, en 2006, dans un livre intitulé « Humanisme et Islam », a osé imaginer, je le cite, « un après-l'islam ». Dans mes propres livres, j'ai voulu à mon tour suivre cette voie en réalité très difficile. Très difficile parce qu'il s'agit toujours, quand on laisse derrière soi la religion du passé, de ne pas perdre avec elle toute spiritualité, mais au contraire de faire revivre, resplendir la flamme et la lumière de la vie spirituelle dans de nouvelles formes. Mais combien y a-t-il aujourd'hui en France de philosophes de l'islam? Combien d'intellectuels capables d'aider l'islam à accomplir un véritable saut dans le futur? Notre pays a une histoire de très ancienne proximité avec le monde musulman. Il a une histoire commune avec l'islam autour de la Méditerranée. Et pour cette raison, la France devrait être depuis longtemps le Harvard de l'islam. Or, que se passe-t-il aujourd'hui en France autour de la pensée de l'islam? Presque rien. Comme dans d'autres domaines, nous formons des sociologues, des historiens, des experts en géopolitique, ce qui est très bien. Mais il faudrait que l'une de nos universités les plus prestigieuses, la Sorbonne, pour n'en citer qu'une, crée enfin un grand département de philosophie de l'islam. Car dans notre culture, ici, c'est la philosophie qui porte le plus haut le flambeau de l'esprit critique. Un département de philosophie de l'islam où seraient discutées donc les évolutions contemporaines de cette religion, et non pas seulement, comme c'est le cas actuellement, les thèses des philosophes arabes ou persans du Moyen-Âge, Averroès, Avicenne ou Razali. Lorsque j'ai fait ma propre thèse de doctorat en philosophie sur Mohamed Iqbal, l'un des deux ou trois plus grands réformateurs modernes de l'islam, mort en 1938, je n'ai trouvé en France aucun, je dis bien aucun spécialiste de la philosophie de Mohamed Iqbal, dont 99% de nos intellectuels français connaissent d'ailleurs à peine le nom, alors qu'il est l'équivalent au moins d'un Nietzsche ou d'un Sartre. À quand donc en France un Harvard de l'islam? C'est tout pour aujourd'hui. Que la paix soit sur nous tous. À la semaine prochaine.